Micromédia, on prend la parole.
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 L'émission que vous allez écouter a été réalisée par les élèves de 5e du collège Clément Cizor dans le cadre du parcours laïque et citoyen proposé par le conseil départemental de la Haute-Garonne. Elle a été réalisée au terme d'un atelier d'éducation aux médias mené par l'association Médias communs Occitanie et Radio Monpaïs.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les élèves de 5e du collège Clément Cizor et vous écoutez l'émission Micromédia. Aujourd'hui, une émission passionnante sur les thèmes d'Internet et ses bons usages.
Vous écoutez toujours Micromédia. On prend la parole tout de suite avec les conseils de la CNIL pour naviguer malin sur Internet.
Bonjour à tous. On se retrouve pour une émission radio avec trois élèves du collège Clément Cizor qui vont nous parler des conseils pour rester net sur le net.
Réfléchir avant de publier. Sur Internet, tout le monde peut voir ce que tu mets en ligne. Infos, photos, opinions.
Ne dis pas tout. Donne le minimum d'informations personnelles sur Internet. Ne communique ni tes opinions politiques, ni ta religion, ni ton numéro de téléphone.
Attention aux photos. N'oubliez pas des photos gênantes de tes amis ou de toi-même, car leur diffusion est incontrôlable.
Sécurise tes comptes. Paramètre toujours tes profils sur les réseaux sociaux afin de rester maître des informations que tu souhaites partager.
5. Attention aux mots de passe. Ne les communique à personne et choisis-les un peu compliqués. Ni la date de naissance, ni ton surnom.
Vérifie tes traces. Tape régulièrement ton nom dans un moteur de recherche pour découvrir quelles informations te concernant circulent sur Internet.
Respecte les autres. Tu es responsable de ce que tu publies en ligne, alors modère tes propos sur les réseaux sociaux. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent.
Utilise un pseudonyme. Seuls tes amis et ta famille sauront qu'il s'agit de toi.
Fais le ménage après ton sort. Si tu te connectes d'un autre ordinateur que le tien, pense à te déconnecter de tes comptes internet, sinon n'importe qui pourrait poster des contenus à ta place.
Crée-toi plusieurs adresses e-mail. Tu peux utiliser une boîte e-mail pour tes amis et une autre boîte e-mail pour les jeux et les réseaux sociaux.
Voilà, c'était les conseils de la CNIL. Retrouvez-les sur www.jeunes.cnil.fr.
Merci pour ces conseils et maintenant, en tant que jeunes reporters, nous nous sommes intéressés à la charte des journalistes jeunes ainsi qu'à la charte de la laïcité à l'école. C'est parti.
Maintenant, on va vous parler de la charte des journalistes des jeunes. La charte des journalistes jeunes, créée en 1991 par l'association G d'encre, fixe la déontologie des jeunes journalistes.
C'est quoi la déontologie ?
Ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession.
On a le droit à la liberté d'expression.
On a le droit d'opinion.
On prend la responsabilité de nos paroles, écrits ou expressions.
On est ouverte à toute discussion, sauf les propos racistes, sexistes, homophobes.
On n'a pas le droit de dire des mensonges.
La censure est une atteinte inacceptable à la liberté d'expression, notamment dans les établissements scolaires.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous lancer un défi pour retrouver les 15 articles de la charte de la laïcité à l'école.
Alors pour le premier, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Pour la deuxième, la république laïque organise la séparation des religions et de l'État.
Personne n'est libre de croire en quelque chose.
C'est faux.
La laïcité garantit la liberté de conscience et chacun est libre de croire ou de ne pas croire. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous.
La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ses principes.
Elle protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix.
La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée.
La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves.
La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations. Elle garantit l'égalité entre les filles et les garçons. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que les autres principes fondamentaux de la République.
Les personnels ont un devoir de stricte neutralité. Ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions.
Les enseignements sont laïcs et aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République.
Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.
Merci.
Et sans plus attendre, écoutons un nouveau morceau de NCS. Ce n'est pas le moment de nous quitter. Car juste après ça, nous vous proposerons d'écouter une interview exclusive d'un informaticien au sujet d'Internet.
Retour sur le 90.1, vous écoutez Micromédia et maintenant, sans plus attendre, place à l'interview de Monsieur Chalulot.
Donc je suis Monsieur Chalulot, je suis professeur de mathématiques au collège Clément Cizor et il se trouve que je suis responsable du réseau, c'est-à-dire de l'ensemble des ordinateurs utilisés par les élèves ou les professeurs sur le collège, ainsi que du bon fonctionnement, de l'accès à Internet et ce genre de choses.
Quel est votre parcours et où travaillez-vous ?
En fait, il y a quelques années, j'étais ingénieur en informatique. J'ai réalisé des applications, des choses de ce genre. Et puis, j'ai souhaité me retourner vers les mathématiques. Et donc, je suis devenu professeur. Actuellement, je suis en poste avec vous, à Clément Cizor, en salle 215, où j'enseigne le théorème de Pythagore. Et de temps en temps, je m'occupe de l'informatique.
Comment fonctionne un réseau local ?
Comment fonctionne un réseau local ? Un réseau local, c'est lorsqu'on a une famille d'ordinateurs, un petit groupe d'ordinateurs qui sont reliés entre eux par des câbles pour qu'ils puissent échanger des informations. Donc il faut des câbles Ethernet, il faut un switch c'est-à-dire une boîte qui va faire la liaison entre les différents ordinateurs et qui leur permet de communiquer entre eux.
Et d'ailleurs, pourquoi y a-t-il un administrateur réseau dans le collège ?
Il y a un administrateur réseau pour deux raisons. La première, c'est que le matériel informatique, de temps en temps, a des ratés, tombe en panne, il faut le rallumer, s'en occuper. Donc c'est la première partie de mon activité en tant que gestionnaire réseau, c'est donner un coup de main quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et la seconde, c'est que le réseau de Clément Cizor, ce n'est pas uniquement un réseau d'ordinateurs entre eux, il y a aussi un accès à Internet. Donc il y a de la communication entre vos postes et Internet, et il faut que quelqu'un soit responsable et puisse contrôler ce qui se passe dessus.
Comment fonctionne un antivirus ?
En fait, il faut déjà réfléchir à ce que c'est qu'un virus. Un virus, c'est un programme qui va faire quelque chose qu'il n'est pas censé faire et qui est plutôt malveillant. Ça veut dire qu'il va se déguiser en un programme qui a l'air intéressant, mais par la bande, il va faire des dégâts. Un antivirus, c'est quelque chose qui va regarder à l'intérieur du programme s'il trouve des traces qui ressemblent à du code malveillant. Ça veut dire, est-ce que, alors que le programme a l'air parfaitement fiable, est-ce que dans sa structure interne, à l'intérieur, il n'y a pas des choses qui ressemblent à quelque chose qui va faire du dégât ? Donc, un antivirus, il va regarder tout ce qui rentre sur ton ordinateur, il va regarder à l'intérieur, il va essayer de regarder s'il ne détecte pas du code malveillant.
Comment Internet peut contenir autant de données ?
Alors, Internet, c'est un réseau qui est pas localisé, c'est un réseau qui est constitué de la somme des ordinateurs qui sont connectés à Internet. Ça veut dire qu'actuellement, on doit imaginer qu'il y a plusieurs centaines de millions d'ordinateurs qui sont connectés à Internet. Ça fait une quantité d'informations absolument gigantesque. C'est pas dans un seul endroit, dans une base secrète sous une montagne. C'est contenu dans chacun des ordinateurs et des serveurs qui sont connectés à Internet. Donc la quantité d'informations est gigantesque parce que le nombre d'intervenants, le nombre d'ordinateurs et de machines est gigantesque.
Comment retirer une photo de Google ?
Alors ça, c'est une question très compliquée. Déjà, Google en tant que tel, c'est une entreprise. Google, c'est un moteur de recherche. Donc si la question, c'est comment retirer une photo des résultats renvoyés par le moteur de recherche Google, là, il y a des solutions qui ont été mises en place par Google lui-même qui propose des services pour retirer un certain nombre d'informations que vous ne souhaitez pas voir publiées. Mais ça ne répond pas à ta question, parce que ta question, ce n'est pas comment retirer une photo de Google, c'est comment retirer une photo de l'Internet. Il y a quelque chose que tu veux plus que les gens puissent consulter. Et ça, ça, c'est pas possible. Parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu l'as mis sur le réseau, tu ne contrôles plus qui l'a récupéré, qui l'a téléchargé, où est-ce qu'il l'a mise, comment il l'a nommée. En fait, elle s'est perdue. Et tu ne peux très difficilement réussir à récupérer, à être certain que l'information ne peut plus être trouvée. Il n'y a pas que Google comme moteur de recherche, il y en a plein d'autres. Ce n'est pas parce que tu t'es déréférencé de Google que tu es certain qu'on ne retrouvera plus l'information que tu avais déposée initialement. C'est inhérent à la façon dont l'information est partagée sur Internet. Une fois que l'information a été déposée, elle va bouger, elle va voyager et tu n'as plus le contrôle sur l'endroit où elle est et comment empêcher qu'elle se diffuse. Donc la vraie question, c'est pas comment on peut enlever quelque chose qui nous embête, c'est plutôt comment c'est plutôt rester en contrôle de ce qu'on diffuse. Là, tu as vraiment la main, mais à partir du moment où la photo est partie, tu peux plus savoir si quelqu'un l'a pas gardée dans un coin, elle va pas la republier dans 15 ans quand tu seras ministre de l'Éducation nationale.
Comment sont référencés les sites sur Internet ?
Alors, il n'y a pas à proprement parler d'une seule instance qui référencerait les sites. Chaque moteur de recherche est responsable de classer, un peu comme s'il y avait plusieurs CDI disponibles et les mêmes livres. Ils sont rangés de façon différente par chacun des sites, par chacun des moteurs de recherche. Donc par exemple, si on prend Google, qui est le plus connu, Il va regarder chacune des pages. En fait, ils ont des robots, c'est-à-dire des petits programmes qui tournent en permanence et qui fouillent les pages, qui fouillent Internet. Chaque fois qu'il tombe sur un document, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Il essaye de voir de quoi il parle avec des programmes compliqués pour essayer de comprendre de quoi ça parle. Et ça va les ranger dans une case, ça va les ranger dans une grande base de données. Comme ça, quand toi, tu vas faire une recherche sur un mot-clé, par exemple sur football, il va te retourner tous les liens sur lesquels, toutes les pages sur lesquelles il a rencontré quelque chose qui ressemblait à du football. Ça, c'est pour l'aspect stockage. Après, il y a un deuxième aspect, c'est que ça va essayer de les hiérarchiser, te renvoyer les pages qui sont les plus intéressantes pour toi. Et ça, c'est essentiellement en regardant l'historique des consultations. Quelles sont les pages que les gens vont voir, quelles sont les pages sur lesquelles les gens restent. Donc, il essaye d'en déduire ce qui t'intéresse à ce moment-là, en fonction de ta recherche.
Comment vérifier une information sur Internet ?
Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, on pourra dire, c'est s'intéresser à la source. Où est-ce que j'ai trouvé cette information ? Est-ce que c'est sur un site fiable ? Est-ce que c'est sur un site plus douteux ? Est-ce que c'est un site qui énonce clairement qui il est ? C'est-à-dire, est-ce que son adresse est parfaitement lisible ? Donc, le premier aspect, si on veut être certain de ce qu'on lit, c'est regarder d'où vient l'information. Et ensuite, un peu comme toutes les informations et toute la connaissance, il n'y a pas de moyen clair d'être certain que les choses soient vraies. La solution, c'est, si vraiment le sujet est important, c'est de lire plusieurs sources, c'est de les recouper, c'est d'avoir un regard critique sur ce qu'on est en train de lire. Il n'y a pas de solution magique pour avoir la réponse vraie et unique à une question. C'est la multitude et le recoupement des informations qui permettent de se faire une opinion.
Comment serait la vie sans Internet ?
Eh bien, pour avoir vécu, aussi étrange que ça puisse paraître, la vie sans Internet, ça se passait très bien. Alors c'était juste, la différence, c'est la vitesse à laquelle on avait accès à l'information, sa nécessité de se rendre dans des endroits incroyables, dans lesquels il y avait des livres, typiquement des CDI et des bibliothèques. Mais l'information était présente aussi, le partage de la connaissance, c'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain, donc même avant Internet, on réussissait à échanger des informations, on réussissait à s'écrire des lettres. Ça fonctionnait, mais il y avait un délai. Internet, ça raccourcit le temps entre le moment où tu envoies les vœux à ta grand-mère et le moment où elle les reçoit. Mais la nature des échanges n'a pas changé tant que ça. La nature des informations n'a pas changé tant que ça. Il y avait Wikipédia, c'est l'université phare en ligne actuellement, mais il y avait des encyclopédies qui existaient à l'époque, on s'en sortait, plus lentement, mais on s'en sortait.
Et vous pensez quoi de Wikipédia ?
Alors j'en pense le plus grand bien. On entend souvent que Wikipédia n'est pas fiable parce que c'est quelque chose qui est écrit de façon communautaire et donc on ne peut pas contrôler exactement ce qui est dans une page. Et en fait, on lit l'opinion de gens qui sont passés avant vous et qu'on peut se faire manipuler. Alors, c'est vrai. Aucune source sur Internet n'est une source de vérité. Wikipédia, c'est des gens, des vrais gens, qui ont écrit des choses dedans. Mais en termes de démarche, il y a une volonté de transmettre l'information et la connaissance qui prend forme sous la forme de Wikipédia et qui est, de mon point de vue, une vraie amélioration de la façon dont on transmet l'information. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder un regard critique. Bien sûr qu'on peut se faire manipuler, qu'on peut écrire des bêtises sur Wikipédia, qu'on peut aller écrire que le collège Clément Cizor est dirigé par un ours en peluche. Ça sera corrigé très vite, ça sera corrigé en 20 minutes à peu près, quelque chose dans ce genre. On peut donc l'information dans le temps est fiable, mais au-delà de ça, dans la démarche, c'est une volonté de partage de la connaissance qui a cette ampleur-là, a peu de précédents dans l'histoire. Donc moi, je suis très, très positif sur Wikipédia, mais ce n'est pas pour ça. Enfin, comme toute information, qu'elle soit sur Internet ou dans un livre, il faut garder son regard critique et il faut la recouper. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des convictions énoncées avec plus ou moins, enfin, qui sont plus ou moins faciles à accepter. Donc sur l'outil en lui-même, je n'ai aucune objection. Je trouve ça fabuleux.
Merci.
Et vous ?
Qu'est-ce que vous pensez ? Comment serait la vie sur Internet ?
Ça serait plus compliqué, déjà, pour communiquer avec les autres, s'ils sont vraiment éloignés de nous. Et pareil, ça prendrait plus de temps pour échanger les informations. Et après, je vois pas d'autres...
Alors, ce que je viens de dire m'intéresse par rapport à la question que tu as posée précédemment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on enlève quelque chose d'Internet. C'est un des pièges, c'est cet aspect instantané. On pense que c'est une bonne idée de déposer dans l'instant une photo, de réagir à chaud à quelque chose qu'on vient de lire, sans forcément se rendre compte que c'est quelque chose qui, pour le coup, va rester dans la durée. C'est sûr que c'était plus difficile d'écrire n'importe quoi il y a 35 ans quand il fallait l'écrire avec une feuille de papier, le poster, ça laissait plein de temps pour se rendre compte que les mots dépassaient la pensée, que c'était pas une bonne idée d'envoyer une caricature du principal du collège à ses copains. Il y avait plein de moments où on pouvait rattraper un message ou un mot qui n'était pas adéquat. À l'heure actuelle, il suffit de cliquer et le tweet, il est parti. Il est parti, et puis 25 secondes plus tard, il est lu par les 600 élèves du collège, et deux semaines plus tard, il y a tout Toulouse qui l'a lu. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, mais ça a un prix, c'est cette instantanéité. Ça veut dire que ce qu'on diffuse va être consommé de suite, et de mon point de vue, ça demande d'être beaucoup plus prudent quand on dit, quand on écrit, quand on publie.
Faut bien réfléchir avant de poster une photo ou une vidéo.
Parce qu'en fait, déjà, quand on publie une photo de soi, ça peut être dangereux. Mmh. Alors si on publie une photo d'autres personnes qui ne nous ont pas donné leur accord, ça peut se retourner contre nous et d'autres personnes en même temps.
Oui, je pense que la vie serait possible parce que déjà qu'avant, c'était possible. Alors maintenant, si Internet s'arrêtait, je pense qu'on trouverait de nouveaux moyens pour communiquer rapidement.
Comme il disait, l'accès à l'information serait réduit, donc on galérerait plus à trouver quelque chose, une information. Donc, et après, pour communiquer entre nous, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué, mais après, je pense qu'on pourrait s'en sortir sans Internet quand même.
Mais en fait, moi, c'est autre chose. Moi, sans Internet, pour moi, j'allais m'ennuyer. Je m'ennuierais parce que... par exemple, quand il n'y a rien à faire, moi, la première chose que je fais, c'est allumer mon portable et aller sur YouTube directement. Alors qu'avant, les personnes, eux, quand ils s'ennuient, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais moi, je fais ça. Et du coup, ça me fait passer le temps.
Moi, je pense qu'on s'est trop attaché à Internet parce que maintenant, on l'utilise trop. Ça, c'est la première chose à quoi on pense. Par exemple, si on doit faire nos devoirs, la première chose qu'on fait, on met le téléphone, on va sur un réseau, n'importe lequel, pour trouver l'information.
Par rapport à un devoir, tu vas sur les réseaux sociaux, toi ?
Le NT ?
Non, pas...
Le NT ? Vous allez sur le NT ?
Oui, des fois. Moi, oui, des fois, pour voir les devoirs.
Mais sur le NT, il n'y a pas les réponses.
Ouais, c'est sûr.
C'est dommage. Hein.
Mais après, c'est pas la première chose que je pense, moi, personnellement.
Vas-y, c'est quoi ?
D'abord, je cherche si je connais l'information. Déjà, je regarde ce qu'on demande et je réfléchis. Après, si je trouve vraiment pas, je demande à mes parents. Et si eux non plus savent pas, je vais sur... je vais sur le Internet et je vais sur, souvent, Wikipédia ou des choses comme ça pour trouver l'information.
Merci.
Merci beaucoup de nous avoir participé à notre émission en radio.
Avec grand plaisir.
Pour la vie sans Internet, quand même, il y a des séries qui... Ouais. Par exemple, là, il y en a une nouvelle, là, Stranger Things. Ça se passe dans les années 80. Oui. Du coup, on voit à peu près.
Ah, comme ça, tu vois comment c'était.
Oui, par exemple.
Ouais. C'était bien.
On faisait du vélo.
Exactement.
C'était dur. Mon enfant encore du vélo.
Je sais pas, non. On utilisait, au lieu d'avoir Messenger, on utilisait le téléphone.
Téléphoner,
on n'avait même pas de téléphone portable.
Ben non.
Et on avait quand même des copains.
Ah ouais, on était pas tous solitaires, on était des autres.
On allait voir les voisins, on allait toquer chez eux au lieu de leur envoyer un message.
C'est vrai.
Et dans un instant seulement, écoutez notre quiz Info Intox.
Bonjour, vous êtes bien sur Micromédia. Qu'est-ce qu'une fake news ?
C'est une vraie information.
Une fausse information.
Une expression anglaise.
C'est une fausse information. Combien y a-t-il de fake news sur Internet par jour ?
Un par jour.
10 000 par jour.
Plus d'un million.
C'est plus d'un million. Où peut-on trouver une fake news ?
Facebook.
Radio.
Journaux.
Là, je sais pas, là.
C'est les trois.
Quel est le but d'une fake news ?
Faire le buzz.
Faire rire les gens.
Influencer les gens.
Faire le buzz et influencer les gens. Est-ce que vous croyez à toutes les fake news ?
Oui.
Non.
Ça dépend.
Il faut faire preuve d'esprit critique.
Comment vérifier des infos sur Internet ? Nous allons prendre comme exemple un article du Garofi intitulé « Toulouse, il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat ». D'après vous, est-ce que ce fait divers est vrai ? D'abord, on a cherché qui est l'auteur.
Sur ce site, l'auteur n'est pas clairement identifié. C'est signé la rédaction.
C'est quoi ce site ?
Un site d'information parodique qui ressemble à un vrai site d'info.
Et d'où viennent les infos ?
Souvent, pour trouver d'où vient une info, on cherche dans les mentions légales, ici en bas du site, on trouve l'adresse de l'éditeur Garofil Network à Paris dans le 20e.
De quand date cette info ?
Ici, l'article a été publié le 20 mars 2013.
Ce site a-t-il l'air sérieux ?
Oui, a priori. Il ressemble à un site sérieux, l'orthographe est correcte, mais le titre nous semble bizarre. C'est pourquoi ça paraît trop gros et absurde. On ne tue pas quelqu'un pour une chocolatine.
Mais il a quand même dit pain au chocolat dans le sud.
Pourquoi ce site existe ?
Pour raconter des vraies histoires.
Mais non, Gorafi est un site d'information parodique.
C'est quoi un site d'information parodique ?
L'information parodique est un registre humoristique dont le support imite celui des médias d'information.
On espère que ces petits conseils vous aideront à déterminer le vrai du faux sur Internet.
Micromédia, on prend la parole.
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 Cette émission a été réalisée dans le cadre d'un parcours laïque et citoyen proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Il a été mené en partenariat avec l'Association d'éducation populaire Médias communs et Radio Mon País, avec une classe de 5e du collège Clément Cizor à Toulouse, en lien avec leur professeur documentaliste, que nous remercions au passage. Vous pouvez retrouver toutes les émissions réalisées dans le cadre des ateliers pédagogiques sur le site de Radio Mon País et sur ondescourtes.fr. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Elle a été réalisée par Alexandra Josse pour l'association d'éducation populaire Médias communs Occitanie. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.